Pauline Pucciano. La cité hantée. Chapitre 6. Jour de pluie. Il pleuvait sur Albâtre. Le bruit de l'eau couvrait tous les bruits de la ville, et à Eleanor se sentait enveloppée, à l'abri, comme au cœur d'un nuage qui faisait un écran entre elle et le monde. Artus sommeillait sur son petit lit, à quelques mètres d'elle. Elle était libre, riche d'une heure ou deux de temps volé. À Eleanor n'avait pas voulu quitter la frontière, et continuait à l'habiter, malgré l'exode général vers la haute ville. Elle avait choisi de ne pas retourner aux marbres et aux matériaux précieux d'en haut. Elle avait préféré demeurer la gardienne de ce lieu qui pour elle était un temple et y élever son fils. La taverne fonctionnait d'ailleurs encore et était plus florissante que jamais, au dire de la gérante dont elle ne vérifiait jamais les comptes. Elle avait gardé les appartements de Keller et annexé une chambre supplémentaire pour Artus. Là, elle retrouvait plus facilement ses souvenirs et lorsqu'ils s'estompaient, elle conservait au moins le sentiment de rester solidement arrimée au passé. Elle ne voulait pas aujourd'hui se laisser aller à sa nostalgie. Il pleuvait et l'occasion était trop belle. À Eleanor avait menti au chancelier Ruben en parlant de frémissement de sa pierre frontale. En réalité, les jours de pluie lorsque les papillons rouges étaient chassés par l'eau, elle était parvenue au fil des jours à utiliser l'esprit presque normalement. Elle s'en cachait bien sûr, bien à l'abri dans le lambris de sa taverne de ville basse. Elle ne tenait pas à embarrasser ses amis du gouvernement provisoire en défiant une loi qu'ils avaient édictée ensemble. Elle ne tenait pas non plus à ce que les habitants, qui lui vouaient déjà une sorte de culte qui la mettait mal à l'aise, se saisissent de ce symbole. Elle ne pensait pas commettre un acte politique, elle voulait retrouver les siens, et c'était l'un des seuls moyens qui lui restait. « Madame ?» Le petit Cardone était devenu un homme à présent, et à Eleanor se demandait parfois si Keller le reconnaîtrait. Il avait gagné en stature physique et en assurance, mais il était toujours auprès d'elle le page attentionné, le chevalier servant qui l'idolâtrait avec un saint respect. Il avait refusé tous les autres emplois et s'était débrouillé pour rester à son service, discrètement. Il logeait aussi à la frontière et donnait parfois un coup de main en salle, mais il passait l'essentiel de son temps à accomplir des recherches pour le compte d'Aélénor. « Oui ?» « Vous m'avez appelé ?»« Oui. Ce tunnel à l'extérieur de la cité, cette grotte que tu as trouvée la dernière fois, ne mène nulle part. Tu en es absolument sûre. »« Non, madame, je ne peux pas en être sûre. Il faudrait des torches en plus grande quantité, parce qu'il fait noir là-dedans. L'écho de ma voix me fait dire que la caverne est grande. Il est possible que l'un de ces passages débouche sur d'autres galeries. »« Comment se fait-il que nous n'ayons jamais eu connaissance de ces galeries si elles existent ?» Peut-être le savent-ils depuis toujours, là-haut. Ce n'est pas parce que nous n'en avons jamais entendu parler que personne ne le sait. Tu as raison. Je pourrais probablement me renseigner auprès de la guilde des géographes. Il n'y a plus de guilde, madame, fit observer Cardone en souriant. Je me comprends, répondit-elle en souriant à son tour, consciente qu'elle avait autant de mal que n'importe qui à faire table rase du passé. Autre chose, madame, j'ai retrouvé les hommes qui se sont rendus à la cité monastère il y a 3 ans. Le cœur d'Aélénor se mit à battre plus vite, assez absurdement. « Ils m'ont tous dit la même chose, reprit-il. Il n'y avait pas d'enfants parmi les restes humains. Aucun ? Aucun. La cité monastère en comptait au moins 20. Ils ont peut-être fui. Vous êtes toujours persuadé que Maître Keller est allé là-bas ? Vers qui d'autre aurait-il pu se tourner, contre la guilde de l'ombre ? Ou alors ? Ou alors la guilde de l'ombre l'a trouvée comme elle m'a trouvée moi, je sais, c'est une autre possibilité que tout le monde semble tenir pour probable. Mais ce que t'a dit Joris cette nuit-là me fait penser le contraire. Il t'a demandé de lui transmettre un message. On n'adresse pas un message à un mort. Je prie pour que vous ayez raison et pour le retour de Maître Keller. Elle lui tapota l'épaule dans un geste qui se voulait maternel mais qui n'était que maladroit. Maintenant j'ai affaire, dit-elle avec un sourire. « Merci pour tout. » Il s'inclina et la laissa seule. Artus dormait d'un sommeil très profond, et elle le contempla un moment avant de se saisir de sa boule d'hypnose. Doucement, presque timidement, la lumière bleue de sa pierre frontale s'alluma et illumina la boule qu'elle venait de secouer et dans laquelle s'agitaient mollement des filaments argentés. La paix, La clarté de l'esprit se firent en elle, et ce fut comme une onde de chaleur bienfaisante dans un corps engourdi par le froid. Elle se domina pour ne pas se laisser aller à ce bien-être, et aiguisa sa concentration. Elle n'avait pas d'anneau de lien à l'image de l'esprit de Keller, mais elle le connaissait si intimement qu'elle avait réussi à en créer l'équivalent. Au bout de longues heures de séances pluvieuses, elle avait finalisé un motif pour l'évoquer, tout à fait semblable à ceux des anneaux de lien. Ses mains agiles, guidées par l'esprit, manipulaient les filaments lumineux dans sa boule d'hypnose et leur faisaient peu à peu prendre la forme de ce motif. Une forme géométrique d'une grande pureté, clivée en deux, avec une base large et un élan dynamique, composée de formes enroulées autour d'une ligne centrale. Il faudrait qu'elle fasse graver ce motif sur un anneau, cela lui ferait gagner un temps précieux. Ce qui faisait dire à Eleanor que Keller était vivant, c'était la différence de sensation quand elle se projetait mentalement vers son esprit et quand elle se projetait vers l'esprit de Stelle, qui était mort. Dans le second cas, elle ne plongeait qu'en elle-même, dans ses souvenirs. L'anneau n'évoquait qu'un fantôme. Mais quand elle se projetait vers Keller, la sensation était très étrange. Ce n'était pas non plus comme du vivant de Stelle, pas l'effleurement d'une conscience certes distante mais volontaire et ouverte. C'était plutôt comme de voir quelqu'un prononcer des mots qu'on n'entend pas, comme de toucher quelqu'un que vous connaissez mais qui ne vous reconnaît pas. La présence était là, pourtant, stable, mais très diffuse, très lointaine. Elle essayait d'envoyer des images, de la frontière, de leur enfant, d'elle-même. Elle lançait un appel, comme un cri pur et inarticulé. Elle l'appelait par son nom. Sa concentration la fatigua bientôt, car elle en avait perdu l'habitude, et elle sursauta lorsque sa transe hypnotique fut brisée d'un coup par la voix d'Artus qui l'observait. « Il ne t'entend pas, » dit-il. « Que dis-tu ? » « Rien, la pluie s'est arrêtée. On peut sortir ?»« Tu m'as dit, il ne t'entend pas. De qui parlais-tu ? » « Je ne sais plus, j'ai envie de sortir, j'ai rêvé d'un lion. » Eleanor n'insista pas. Ses efforts mentaux l'avaient épuisée, mais, comme un convalescent qui aime les courbatures dont il est perclus, elle aimait sa fatigue comme la preuve d'une renaissance. « Pourquoi ne m'entend-il pas ?» se demandait-elle en elle-même, tandis qu'elle aidait Artus à enfiler des vêtements de pluie et qu'elle essuyait son visage avec un linge humide. « Où veux-tu aller aujourd'hui ? Sur l'ancien canal ?» « Parce qu'il est sourd, maman. Il n'entend pas son passé. »« Je voudrais aller dans le jardin des Caprices, dis. Ce n'est pas trop loin. Il y a une statue de lion là-bas. » À Eleanor, troublée, lui sourit et l'embrassa distraitement. « Tu entends ce que je dis dans ma tête ?» pensa-t-elle en lui souriant encore, les lèvres closes et en le regardant fixement. Artus ne répondit pas, mais il éclata de rire en hochant la tête d'un air équivoque et la couvrit soudainement de baisers en rugissant. Le jardin des Caprices n'était pas un jardin, à proprement parler, mais plutôt une sorte de ville dans la ville dévolue aux enfants. On y trouvait des espaces symboliques des différentes guildes, un champ de bataille avec des montures de pierre caparaçonnées, une venelle typique d'Albâtre avec ses petits palais, ses lieux d'agrément, ses échoppes discrètes. Tous les bâtiments étaient miniaturisés, avec une hauteur de plafond qui rendait impossible aux adultes de s'y tenir debout sans se pencher. Chaque palais avait ses attraits particuliers. La mini-guilde du savoir contenait une superbe bibliothèque de vélin, emplie d'histoires féeriques et de légendes guerrières. Les enfants pouvaient y dessiner et y afficher des cartes de pays imaginaires, y apprendre des poèmes et se les réciter, ou simplement jouer à la haute école dans une réplique de salle de classe plus vraie que nature. Dans la mini-guilde des tisserands, non loin de l'entrée, que les enfants appelaient communément « le vestiaire », des coffrets regorgeaient de déguisements précieux, des toges de cérémonie de toutes les tailles enfantines, des vêtements de ville basse, des accoutrements étrangers. Les enfants avaient à leur disposition, dans une salle particulière, des étoffes de toutes les couleurs et de petits nécessaires à couture pour coudre ou broder leurs folles idées de parure. Beaucoup d'entre eux, cependant, ne passaient par le vestiaire que pour échanger leur tenue ordinaire contre une toge ténébreuse de la guilde de l'ombre ou une toge de mariage, et poursuivaient au dehors le fil décousu de leurs histoires échevelées. À Eleanor, qui avait passé, comme tous les enfants d'Albâtre, des journées entières délicieuses dans cet espace luxueux, y retournait avec plaisir, aujourd'hui, pour accompagner son fils, qui lui faisait découvrir des lieux qu'elle n'avait jamais visités et inventait des jeux auxquels, petite fille, elle n'avait jamais pensé. Aujourd'hui, il pleuvait et Artus voulut aller au vestiaire immédiatement pour se changer. Il choisit une tenue de ce temps, comme toujours, et entraîna sa mère à travers le parcours familier, rasant les murs dégoulinant de pluie, s'abritant sous les arcades et courant à travers les espaces découverts, jusqu'à la mini-guilde de l'ordre où se trouvait un petit parcours de ce temps avec tous les agrès nécessaires. Comme il était impossible de pratiquer le sauton sans l'esprit et qu'on n'enseignait plus les techniques spirituelles aux enfants, ce bâtiment du jardin était toujours quasiment désert. Artus, seul dans l'élégant préau, qui, pour avoir des dimensions réduites, n'avait rien à envier au reste de la ville en termes d'ornementation, se mit immédiatement à s'exercer. À Eleanor, assise à l'abri, le regardait d'un air distrait. Elle aimait ce lieu qui avait, lui aussi, vécu sa petite révolution. Les enfants nés en Hauteville, habitués à ne manquer de rien et à respecter les objets précieux même quand ils ne leur appartenaient pas, prenaient soin du jardin des caprices. Mais les enfants de la Révolution, fraîchement débarqués de leur taudis de ville basse, émerveillés par les babioles de soie, de nacre, d'or qui leur étaient soudainement offertes, avaient eu le plus grand mal à se discipliner. Il y avait eu du vandalisme, des vols, des combats furieux, et il fallut en arriver à des punitions drastiques et à quelques exclusions respectées scrupuleusement pour venir à bout de ce choc des cultures enfantines. Et puis, avec la ductilité merveilleuse des enfants, les règles qui faisaient prévaloir l'intérêt commun furent peu à peu respectées par tous, et le jardin des caprices était à peu de choses près semblable aujourd'hui à ce qu'il avait été pendant l'enfance d'Aélénor, un peu plus peuplé peut-être. Elle était surprise, à chaque fois, de constater à quel point la culture de la haute ville se diffusait rapidement parmi les enfants. Même ceux qui n'avaient quelques années auparavant jamais traversé le canal frontière parlaient aujourd'hui du forum, des guildes, des plats traditionnels, des rituels civils et de l'esprit, comme s'ils les avaient connus. Et cette magie s'était opérée grâce aux livres. Les histoires de la haute ville, si flamboyantes avec leurs descriptions enchanteresses, leurs personnages puissants et leurs intrigues subtiles, s'étaient gravées dans leur mémoire en lettres d'or, tandis que leurs souvenirs réels, de promiscuité, de misère et de labeur, s'y estompaient, presque effacés déjà. Comme si l'encre de la vie, pauvre et diluée, s'imprimait moins durablement dans nos âmes que celle, riche et indélébile, de l'art.